La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Et le club de la tête au carré, donc aujourd'hui en direct des studios de France Bleu Occitanie à Toulouse, à l'occasion de la 7e édition de l'événement Futurapolis, organisé par nos confrères du Point en partenariat avec France Inter. Et pendant 2 jours, donc jusqu'à demain, ce rendez-vous de l'innovation qui vous propose des rencontres, des débats et des démonstrations avec des chercheurs, des artistes ou des entrepreneurs. Plusieurs d'entre eux nous ont rejoints pour l'émission cet après-midi. Je vous les présente dans un instant pour parler entre autres de robotique, de spatial, de nutrition ou de ressources maritimes. Ce club est réalisé par Fanny Boyon et il a été préparé aujourd'hui par Chantal de Montagnier.
France Inter, la tête au carré en direct de Toulouse, Mathieu Vidard.
Et je salue mes invités qui ont tous des choses à nous raconter sur le monde de demain. La biochimiste Sylvia Collier-Joux, l'astronaute Jean-Pierre Aigneret, le réalisateur Jean-Christophe Ribault, le nutritionniste Laurent Chevalier, le roboticien Raja Chatila et Romain Gonzalez, responsable éditorial de ce Futurapolis. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Bienvenue. Ravi de vous retrouver donc ici dans les studios de France Bleu Occitanie. Romain Gonzalez, donc ce matin, a démarré cette 7e édition de Futurapolis à Toulouse. C'est jusqu'à demain. 2 journées qui s'intéressent, comme à chaque édition, donc à l'innovation.
Exactement. L'objectif de ces 2 journées, c'est d'évoquer de nombreuses thématiques en lien avec l'innovation et la prospective de manière plus générale, dans le cadre d'un festival grand public ouvert à tous, gratuit.
Donc des innovateurs, des chercheurs, des artistes, des entrepreneurs, ils sont tous là pour ausculter finalement notre société et comprendre un petit peu ce qui va se passer là dans les prochaines années, décennies à venir.
Exactement. L'objectif, c'est d'arriver à équilibrer ce calcul qui est toujours compliqué entre rétrospective et prospective. C'est l'objectif de Futurapolis, et c'est d'évoquer les questions de notre temps en prenant un regard vers le futur. C'est se demander pourquoi ces choses-là se passent aujourd'hui et qu'est-ce qui se passera demain.
Alors, quels sont les thèmes abordés un petit peu? On va regarder le programme ensemble pour donner envie à tous ceux qui sont dans la région toulousaine de venir nous retrouver.
Tout à fait. En fait, les thématiques sont difficiles à résumer parce qu'elles sont multiples. Donc, demain, on pourra parler, par exemple, de liens entre art et technologie, de mobilité. Donc, demain, vu la journée qui nous attend, ça sera une thématique assez centrale. On parlera de mer, on parlera de blockchain, on parlera de green tech. On se demandera si l'innovation peut être conciliable avec l'environnement. Voilà, toutes ces choses. Choses-là.
Quelques temps forts, justement, Romain,
oui,
pour
demain,
regarder un peu l'agenda de plus près.
Exactement. Demain, l'un des vrais temps forts, selon moi, c'est la venue de François Paché, qui est en fait le directeur du laboratoire de recherche de Spotify. Et François Paché, c'est l'un vraiment des leaders, si ce n'est le leader, de la recherche en intelligence artificielle dans le domaine artistique. Voilà. Moi, c'est vraiment l'un des temps forts. Et sinon, on aura également Cécile Maisonneuve, la patronne de la Fabrique de la Cité, qui est un laboratoire de recherche urbaine. Elle viendra nous expliquer quelles sont les tensions actuelles, les tensions à venir dans le domaine de la mobilité.
Ouais, et il y aura beaucoup d'autres thèmes. L'hôpital du futur, est-ce qu'il sera plus technologique qu'humain, par exemple? Comment on va former les champions de demain, l'école de demain aussi, la biodiversité marine? Ça, on va en parler dans un instant. Et la nourriture du futur, là aussi, c'est un thème de ce club cet après-midi. Le plus simple, c'est évidemment d'inviter tous ceux qui nous écoutent à consulter le programme. C'est futurapolis.com, tout simplement.
Tout à fait.
Et à l'occasion de l'événement, et en marge d'ailleurs aussi, on peut signaler ce hors-série du Point qui apparaît.
On peut signaler la sortie de Vivre avec les machines qui a été chapeautée par Catherine Goliot, rédactrice en chef au Point, qui s'intéresse notamment autour de la relation assez conflictuelle, voire de plus en plus conflictuelle, entre l'homme et la machine, mais en prenant cette fois-ci un regard rétrospectif, en se demandant dans l'histoire des idées ce qui nous a amené à aujourd'hui.
Oui, ce sera un de nos thèmes évidemment cet après-midi, et donc ce Point référence vient de paraître. Jean-Pierre Aigneret, on va voir avec vous bien comment justement, à quoi va ressembler peut-être le futur des spationautes, des astronautes, puisque tout à l'heure à 18h au Muséum, à l'auditorium justement du Muséum de Toulouse, sera diffusé en avant-première ce documentaire des cobayes du cosmos, Confidence d'astronautes, qui est réalisé par votre voisin Jean-Christophe Ribault, qui est également donc avec nous, avant d'ailleurs la diffusion sur France 5 la semaine prochaine. C'est quoi finalement le futur du spatial pour les astronautes si on se projette un peu dans l'avenir?
C'est celui de l'exploration, qui est une histoire qui s'est écrite depuis que l'homme est sur Terre, avec l'exploration progressive de tous les continents, puis celle des océans. Et maintenant, ben, on voit bien qu'on sent un peu à l'étroit sur Terre, donc ouais. on ira chercher des solutions ailleurs, probablement sur la Lune d'abord, parce que c'est tout près et que c'est un bon entraînement, et puis sur Mars, voire plus loin.
Ouais, Jean-Christophe Ribaud, justement, vous qui avez réalisé ce documentaire sur les cobayes du cosmos, les agences spatiales que vous avez rencontrées hein, pour le film, elles travaillent vraiment activement aujourd'hui sur ces voyages de demain ?
Ah, c'est le projet concret, c'est d'aller vers Mars. Je pense que ceux qui y croient le plus, en fait, ce sont les astronautes, la nouvelle génération d'astronautes. Eux, ils y croient dur comme fer, et leur objectif, aujourd'hui, c'est concrètement de penser ce voyage vers Mars.
Oui, ça, c'est l'objectif vraiment pour tout le monde. Le plus raisonnable, entre guillemets, parce qu'il est assez déraisonnable, on le verra d'ailleurs avec Jean-Pierre Henrien tout à l'heure. Mais...
Oui, je pense qu'une première étape, ce sera sans doute de retourner sur la Lune. Mais la nouvelle génération d'astronautes, comme Thomas Pesquet, par exemple, aujourd'hui, ils s'en cachent pas. Eux, ils ont comme objectif concret d'être les premiers à poser le pied sur Mars.
Ouais, on va en parler avec vous, Thomas Pesquet, qui figure comme Jean-Pierre Henrien, justement, dans ce documentaire que nous verrons donc tous ensemble, puisqu'on sera présent sur la scène du muséum tout à l'heure, donc à 18h à Toulouse. Sylvia Colliec-Jouhaud, c'est quand même paradoxal parce qu'on parle de l'espace alors qu'il y a tellement de choses à découvrir encore. Et dans la mer, qu'on connaît si peu d'ailleurs.
Dans les grands fonds marins. Ouais.
On a presque moins de connaissances sur le fond marin terrestre que sur le système solaire. C'est incroyable quand même.
Oui.
C'est la difficulté de pouvoir.
De l'accessibilité. Et des moyens pour accéder et découvrir et explorer ces milieux.
Ouais. Pourquoi vous l'étudiez, vous, la mer, en l'occurrence, alors ?
Alors, moi, je m'intéresse à des polysaccharides produits par des bactéries marines qui viennent justement des grands fonds marins. Et ces polysaccharides ressemblent aux polysaccharides de nos tissus, qui jouent un rôle clé dans la réparation tissulaire. Et ils ont un fort potentiel en ingénierie tissulaire, qui est la science, justement, de reconstruction des tissus.
Et là, il y a beaucoup de promesses justement
pour
l'avenir.
Pour reconstruire, hein. Oui,
donc vous allez nous expliquer ce que vous recherchez exactement dans votre laboratoire et ce que vous avez d'ailleurs déjà découvert. Laurent Chevalier, qu'est-ce que nous allons manger dans le futur ? C'est vraiment le serpent de mer d'ailleurs cette question, ça revient tout le temps.
Oui, alors on est
en attendant, on est toujours face à notre cassoulet et à notre magret de canard, hein, ça ne change pas.
Oui, mais on prépare une alimentation très artificielle qui va être présentée comme intéressante pour l'écologie puisque sans pesticides, mais en fait qui va consommer beaucoup d'énergie, qui va poser tout un tas de problèmes. Parallèlement, eh bien, on a une autre approche beaucoup plus intéressante qui va aider à mieux comprendre les sols, à mieux aider la biologie, à mieux aider la physiologie. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, on est un peu à la croisée des chemins. Et aujourd'hui, je pense que avant tout, la science doit protéger. Donc, il ne faut pas se tromper, notamment dans l'alimentation.
Bon, on va scruter alors avec vous l'assiette de demain. Et puis, Raja Chatila, dans le domaine de la robotique, puisque c'est le thème qui vous intéresse, vous, en tant que roboticien, il y a énormément de choses, évidemment, à dire aujourd'hui, et énormément de questions autour de l'éthique. Hein. C'est vraiment ce qui se pose aussi pour l'avenir. On ne pourra pas faire sans, justement, ces interrogations éthiques. Hein.
Ah, je pense que c'est indispensable de réfléchir et d'apporter des réponses aussi à ces questions éthiques. Elles sont nombreuses. Elles ne sont pas uniquement éthiques, elles sont aussi éthiques et sociétales, selon les réponses qu'on apporte. Par exemple, les problèmes d'emploi, le travail, par exemple, les problèmes des voitures autonomes, le problème des armes autonomes. Il y en a d'autres, je suppose qu'on y reviendra.
Absolument, on va développer ce sujet ensemble dans quelques minutes, et puis également avec les auditeurs de la Tête au Carré qui peuvent nous rejoindre en direct avec toutes les questions et les messages sur ces différents thèmes, franceinter.fr. Romain Gonzalez, on va vous libérer parce que vous avez beaucoup à faire évidemment avec Futurapolis, et donc futurapolis.fr pour avoir tout le programme. Et on se retrouve tout à l'heure à 18h en l'occurrence au muséum. Merci
avec
beaucoup
grand plaisir,
à vous.
Merci à vous.
Et nos invités, c'est dans un instant, vous êtes sur France Inter. Bon après-midi. Lighten Up, c'était Parcelles à l'instant.
La tête au carré en direct de Toulouse sur France Inter.
J'avais beau être prévenu, avoir vu des films en IMAX tournés par les astronautes, la première fois que vous voyez la Terre de vos propres yeux, c'est waouh, avec des larmes aux yeux, et c'est vraiment époustouflant.
C'est une expérience extraordinaire, humainement parlant, de pouvoir voir sa propre planète de l'extérieur et de vivre ça.
Quand tu regardes la Terre, c'est comme si tu entrais dans une église. Tu vois des fleuves, des forêts, des océans, des mers. Ça t'hypnotise. C'est une sorte de psychothérapie, tu oublies tout.
La Terre est remarquable. Cette capacité à produire l'air qui nous entoure, ces cycles incroyables où les plantes absorbent le CO2 et relâchent de l'oxygène. Et quand vous devez reproduire ce système de manière mécanique, à l'échelle d'un vaisseau spatial, vous vous dites, la Terre est vraiment fabuleuse.
Voilà extrait de ce documentaire Les Cobayes du Cosmos, Confidences d'astronautes, que vous pourrez voir donc tout à l'heure à l'auditorium du Muséum de Toulouse en vous inscrivant sur futurapolis.fr, c'est à 18h. Et puis, dès la semaine prochaine, dans la case Science Grand Format sur France 5, Les Cobayes du Cosmos, Jean-Christophe Ribaud, vous en êtes le réalisateur, et Jean-Pierre Aigneret, vous faites partie du casting prestigieux justement des astronautes. Ils sont 13 qui ont accepté justement de témoigner. Vous avez été astronaute, chef des astronautes de l'ESA. Et vous témoignez donc dans ce film. Vous avez effectué combien de vols, Jean-Pierre Aigneret ?
De vols
dans l'espace ?
En avion, j'en ai fait beaucoup.
Bah oui, c'est pour ça, oui.
J'ai fait deux vols, un de 3 semaines en 93 et un peu plus de 6 mois en 1999.
Ouais. Au total, 209 jours, 12 heures et 25 minutes. Hein. C'est très précis sur le CV, on a toutes les infos. C'est pas si mal que ça d'ailleurs, deux vols dans la vie d'un astronaute, non ?
C'est pas mal, surtout que j'ai été le premier français à faire un vol, même peut-être occidental, à faire un vol de longue durée, de très longue durée. Il y avait une sortie extravéhiculaire, et c'est vrai que j'avais 50 ans, un peu plus de 50 ans, quand j'ai fait mon deuxième vol. Je pouvais envisager sereinement de servir après avoir été tant servi par cette histoire d'exploration.
Ouais. Et toujours sur la station Mir, c'est ça ?
Les deux, c'était sur la station Mir, et même notre dernier vol en 99, nous étions le dernier équipage opérationnel à bord. Il y a deux Russes qui sont allés au mois d'avril suivant, on est revenu au mois de septembre, comme on dit en anglais, décommissionner, c'est-à-dire préparer la station Mir à son retour, qui est un crash en fait sur Terre.
Oui. Elle n'était plus opérationnelle concrètement ? Ça veut dire qu'elle était vraiment très
vieille ? Elle avait 15 ans. Il faut se rendre compte que tout objet sur Terre, ben, prenons un avion, même un avion sophistiqué, tous les 4 ans, il est complètement démonté en usine.
Ouais.
Et là, cette station qui est soumise quand même à des contrastes de température de moins 180, plus 180, bombardement permanent par le rayon cosmique, le rayonnement solaire, dans le vide absolu, n'avait pas subi de maintenance majeure pendant ces 15 années. Ouais. Donc, effectivement, il y a eu des fuites. D'ailleurs, on a passé beaucoup de temps à rechercher les fuites. Fuites d'air.
Ouais. C'est pas très rassurant quand même. Quand on sait qu'on fait le dernier voyage de la station, parce qu'elle est quand même dans un état d'usure assez avancé, vous étiez très serein ou...
Oui, on fait pas ce métier-là si on est stressé, mais oui, les fuites, ça fait partie. Il n'y a pas d'herméticité absolue. Ah. Hein, c'est le principe même, d'ailleurs, c'est d'avoir une différence de pression pour que l'on gonfle en permanence.
Oui.
Oui, on était tout à fait serein. En fait, si elle avait tenu 15 ans, elle pouvait tenir encore quelques mois de plus. Hein, et je dirais même que l'ensemble du système russe était très rassurant. Et on a vu dans l'histoire, d'ailleurs, que la fusée Soyouz, qui continue à être opérationnelle, qui a eu des pannes récemment, mais qui sont terminées en tout cas tout à fait sainement pour l'équipage, qui est revenu sain et sauf sur Terre, alors que depuis longtemps, la navette spatiale américaine, qui était d'une technologie prétendument, effectivement, très avancée, a connu la fin de sa carrière il y a maintenant 2 ans, je crois. Plus que ça même, le temps passe très vite.
Jean-Christophe Ribaud, vous êtes donc le réalisateur de ce documentaire. Vous avez réuni un casting de rêve, hein, justement, pour filmer ces astronautes de plusieurs nationalités. Alors, parmi les Français, donc, Jean-Pierre Aigneret, Thomas Pesquet, Jean-François Clairvoy, Patrick Baudry, voilà ceux qu'on connaît. Pour les étrangers, ce serait plus compliqué de les citer, déjà. Hein.
Moi, je peux, mais...
Bah oui, parce que vous êtes évidemment complètement fan de ces gens-là.
Mais l'idée, c'était d'avoir un panel qui soit... très très varié. En fait, si vous voulez, ce qui m'intéressait, je pense, en tant que réalisateur, c'était vraiment de filmer cette curiosité folle des êtres humains à prendre des risques, à prendre des risques de vie pour explorer. Et cette curiosité-là, je voulais la filmer sur des visages totalement différents, des hommes, des femmes, des nouvelles générations, anciennes générations, mais surtout de voir cette curiosité qui s'exprime dans des cultures différentes. Ouais. Donc effectivement, on a cherché des astronautes de tous les pays, de tous les, enfin, des continents les plus variés pour pouvoir explorer comment s'exprime sur un visage humain la transformation que peut provoquer un voyage dans l'espace, quoi.
Ouais, avec évidemment les expériences respectives hein, qui sont très différentes les unes des autres. Hein.
Oui, les expériences sont toujours très très différentes, donc on peut voir les particularités de chacun. Mais moi, m'a quand même frappé un point commun quelque part entre tous les astronautes, hommes et femmes, et qu'ils soient russes, américains, asiatiques ou européens. Il y a un point commun quelque part, c'est cette une sorte de dualité entre un rationalisme froid, c'est des gens de sang-froid, c'est des gens qui doivent pouvoir résister à des situations de stress extrêmes, très méthodiques, souvent issus du milieu militaire même, et la folie, une curiosité folle, quelque chose qui les anime, et souvent qui les anime depuis toujours, et je dirais même pour tous, qui les anime depuis toujours, depuis l'enfance, qui les pousse à aller voir. Mmh. Et ce contraste entre la méthode et la folie, si vous voulez, c'est ça qui m'intéressait. Et ça, je pense que c'est le point commun de toutes les personnes que j'ai pu interroger pour faire ce film.
Vous, c'est ce que vous avez perçu. Est-ce que vous reconnaissez Jean-Pierre Aigneret dans ce portrait?
Alors, c'est un portrait multiple, parce que justement, ce que j'aime beaucoup dans ce documentaire, c'est le panel de non seulement de culture, mais de profils psychologiques, d'origine aussi. On dit qu'il y a beaucoup de... Il y avait beaucoup de militaires, mais il y avait aussi beaucoup de scientifiques. Et on voit les réactions sont différentes. Et en fait, on voit que la constante, c'est une balance entre ce que Jean-Christophe appelle la curiosité et la mesure du risque, quelque part. Alors, pour chacun, le curseur, pour les uns et les autres, le curseur n'est pas au même endroit. On voit en particulier un astronaute japonais pour qui le curseur de la sécurité est quand même placé comme une priorité visible par rapport à une curiosité quand on l'interroge, par exemple, s'il serait volontaire pour aller sur Mars.
Ouais. Comment s'appelle-t-il d'ailleurs, Jean-Christophe Ribon? On peut citer son nom.
Onishi.
Voilà.
Onishi, oui.
Parce qu'il est assez atypique finalement.
Mais c'est très, alors effectivement, c'est très atypique pour un astronaute de la nouvelle génération de dire qu'il a peur d'aller sur Mars. Parce que la nouvelle génération veut y aller. Lui, je pense qu'il veut y aller, mais il avoue, il le dit que psychologiquement, il ne sait pas s'il résistera. C'est ça qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que les problèmes du côté des astronautes, ce qui leur fait le plus peur, c'est pas tant les problèmes physiques qui vont se poser, c'est vraiment les problèmes psychologiques.
Et c'est le problème pour les agences spatiales, hein, c'est de résoudre justement ce problème de psychologie et de vivre ensemble dans des milieux évidemment de promiscuité. Hein.
Je pense que c'est ce qui leur échappe le plus en fait. C'est pour ça que ça leur fait peur. C'est que effectivement dans le milieu spatial, on est habitué à travailler avec des machines et même le corps, on le considère comme une machine avec ses soupapes, avec ses tuyauteries. Mais dès qu'on s'intéresse au psychisme, on est beaucoup plus perdu et je pense que personne ne peut prévoir ce que ça va faire. C'est-à-dire de voir la Terre qui s'éloigne jusqu'à disparaître, jusqu'à devenir un point dans le ciel puis disparaître derrière le Soleil, je pense que personne ne peut envisager sur Terre ce que ça va faire.
Ouais.
Et donc il faut le vivre une première fois pour imaginer ce que ça peut provoquer sur un psychisme.
Alors ça, vous ne l'avez pas vécu pour le coup, Jean-Pierre Aigneret, la disparition de la Terre, parce qu'elle était là quand même à 400 km sous vos pieds quand même.
Même
hein.
Les astronautes qui sont allés sur la Lune n'ont pas connu ça, puisqu'ils voyaient la Terre malgré tout de très loin et ils comptaient sur le fonctionnement d'un seul moteur pour revenir sur cette Terre. Néanmoins, surtout quand vous en faites le tour, hein, pendant 6 mois... Vous avez tourné la Terre des milliers de fois, mais vous avez quand même, il y a une relation qui se noue avec la planète qui est vraiment extraordinaire et qui est difficile à décrire. Je dirais que c'est presque, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus dans le documentaire, je crois que c'est de l'ordre de l'échange de matière. On sent qu'on est dans la même matière et on vit en harmonie. Parce que l'affaire en jeu, finalement, c'est la vie. On sait bien que si on va sur Mars, entre autres, c'est pour rechercher la vie. Mais l'astronaute, lui, ce qu'il cherche, c'est à vivre une grande expérience. Il cherche à participer à l'histoire, quelque part, à son histoire et à une histoire collective. Et donc, voilà.
On va écouter un extrait justement qui concerne tout l'aspect sanitaire hein, de ces vols, parce que ça, c'est vraiment la préoccupation aujourd'hui, c'est comment les organismes vont pouvoir s'adapter à ces voyages de très très longue durée, l'objectif Mars en particulier. Et on écoute donc un nouvel extrait de ce doc, Les cobayes du cosmos.
De décennie en décennie, les expériences ressassent l'inventaire des transformations causées par les séjours dans l'espace.
Il y a énormément d'expérience dans plein de domaines dans la station, mais ce qu'on en retient, nous, c'est beaucoup la médecine, la physiologie, parce que c'est celle qui nous demande le plus de participation. C'est pas juste brancher un système, appuyer sur start, récupérer les résultats, les envoyer au sol. C'est vraiment utiliser son corps comme cobaye, comme lieu de l'expérience, prise de sang, test physique. On a des biopsies avant, après, des IRM, des radios, des choses comme ça. Donc effectivement, c'est de celles-là qu'on se rappelle le plus, et parfois aussi parce que c'est celles qui font le plus mal ou qui sont le plus difficiles.
D'une certaine manière, c'est le prix à payer. Toutes les personnes qui ont la chance d'aller dans l'espace doivent une contrepartie. Et cette contrepartie, c'est la contribution à la science, l'entretien de la station et les expériences dans lesquelles notre propre corps est impliqué.
Le corps, il trinque vraiment, Jean-Pierre Ligneret, ou pas dans l'espace? Est-ce que vous, 21 ans après, à peu près 20 ans après votre retour de votre dernière mission, vous avez vraiment des marques des de ces vols? Ouais.
Impossible à dire. Je ne sais pas comment j'aurais été si je n'étais pas allé dans l'espace. Mais donc, le simple fait de se poser cette question montre que c'est insidieux. Et c'est insidieux. Une des choses les plus spectaculaires, par exemple, c'est la perte de densité osseuse. On estime que la perte de densité osseuse est d'environ 1% par mois de présence dans l'espace. Donc, en ce qui me concerne, on a fait des analyses avec un IRM pour voir évaluer cette densité osseuse. J'avais perdu 8% sur certains os et 7% en moyenne. Qu'on récupère, il faut deux fois plus de temps. C'est-à-dire, j'ai récupéré en un an, pas tout d'ailleurs, parce que de toute façon, avec l'âge, on sait bien, on perd de la densité osseuse. C'est un phénomène naturel. Alors, il y a des phénomènes qui sont beaucoup plus visibles, comme par exemple le mal de l'espace. On parle beaucoup dans ce documentaire du mal de l'espace.
Ah oui.
Moi, je pense qu'il se manifeste pas. Il se manifeste pendant quelques heures, pour la plupart, au maximum. Ouais. Bon, parfois, il y a effectivement certains astronautes qui sont restés. On pense à un sénateur américain qui avait fait un vol de navette et qui est resté 8 jours dans la soute en train de remplir son sac.
Sauf qu'il a servi à la science, Jean-Christophe Ribaud.
Oui,
à la couleur de son visage, quel était justement le taux de désagrément.
C'est ça, il a fallu trouver une utilité à son
entre
voyage.
Entre le jaune et le vert. Hein, c'est ça, ouais.
Donc, non, je crois qu'il n'y a pas de phénomène irréversible, et d'ailleurs c'est bien pour ça qu'on maintient ces vols dans des conditions, même avec une évolution sur les critères de sécurité et les critères de santé, ces vols sont continués par une grande population d'astronautes, et il n'y a pas eu de choses très visibles.
Alors, on a une question de notre médecin nutritionniste Laurent Chevalier, qui s'interroge pour les astronautes.
Ouais, donc, sur le plan physiologique, en fait, c'est des gens qui sont supposés être parfaits au niveau de la santé, sans ça, ils partiraient pas dans l'espace. Mais est-ce qu'il y a un profil psychologique particulier pour pouvoir aller dans l'espace?
Alors, sûrement, il faut être capable. Le problème d'un vol spatial, c'est que c'est un gros investissement et que finalement, cet investissement, il est rapporté par le travail, je parle du travail scientifique, par un individu. Quand la France ou l'Europe envoie un astronaute dans la station internationale, il en envoie un à la fois. Et donc l'ensemble des expériences, il y a parfois une vingtaine d'expériences à réaliser, dépend essentiellement de ses capacités d'opérateur, de la précision avec laquelle il va répéter les opérations pour lesquelles il s'est entraîné. Et donc il est évident que surtout sur des périodes de longue durée, 6 mois c'est long, vous savez, 6 mois sans aller au cinéma, au café, sans voir sa copine, il y a quand même potentiellement des frustrations qui peuvent se développer, même si le regard sur la Terre est quelque chose d'absolument extraordinaire qui compense.
Ouais.
Mais donc c'est
ce profil psychologique, il est quand même très étudié. Hein.
Alors au début, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait essentiellement, on le voit dans le Rise Tough, un film sur le sujet, où essentiellement on allait chercher des pilotes d'essai, parce que là il s'agissait de mettre au point des machines et de résister à des stress énormes, parce que à l'époque, des premiers vols de Gagarine, c'était un vol. Il y avait une chance sur deux que ça ne vienne pas. D'ailleurs, on le voit dans le First Man, le dernier film sur l'épopée d'Armstrong. On lui pose la question, quelles sont tes chances de revenir? On sait que c'était à peu près une chance sur deux. Il est évident que dans ces conditions, il faut des gens qui sont habitués aux opérations, y compris des pilotes de guerre, etc.
Comme les sportifs de l'extrême aussi.
Oui, mais néanmoins, aujourd'hui, la station internationale, avec 50 ans de recul sur la technologie spatiale de l'exploration, elle a acquis suffisamment de sûreté pour que des scientifiques qui n'ont pas de passé opérationnel très visible participent à ces opérations et soient à bord de la station.
Jean-Christophe Ribaud.
Oui, je pense que sur le profil psychologique, si vous voulez, les avis divergent pas mal. Enfin, pour le premier voyage vers Mars, actuellement, les agences spatiales travaillent beaucoup à essayer de trouver des gens qui soient très très sociables. C'est-à-dire qu'ils puissent s'accommoder de vivre dans un petit groupe pendant, pendant des mois et de ne pas s'entretuer. Mais il y a une réflexion dans le documentaire qui est porté par Jerry Leininger, l'Américain. Lui pense que le profil psychologique, c'est pas tant ça. Le profil psychologique pour pouvoir partir dans l'espace et pour pouvoir résister à la solitude, c'est d'être bien avec soi-même. C'est-à-dire de pouvoir supporter la solitude, en fait. Pas tant de pouvoir s'accommoder des autres et de pouvoir être facile à vivre, mais de pouvoir se supporter soi-même, supporter la solitude.
Jean-Pierre Ignoret.
En l'occurrence, Leininger est quand même pas le mieux placé pour parler de ça, parce qu'il a quand même eu quelques petites difficultés pendant son vol et positionnement par rapport à ses camarades russes. Je pense que ce qui est important surtout, c'est d'être multiculturel. Et c'est un des grands avantages des astronautes européens. Les Européens, à l'ESA, on parle une dizaine de langues différentes. Et donc, les astronautes européens sont très aguerris à approcher les différentes cultures et les comprendre et parler les langues. Et c'est ça qui est essentiel quand on vit avec des camarades, c'est de comprendre tout leur code culturel et d'être capable de s'exprimer dans les nuances même de la langue de l'autre.
Allez, une dernière question avant de vous laisser partir, Jean-Pierre Ignoret, de Raja Chatila, notre roboticien.
Bah oui, donc les robots ont précédé les astronautes sur Mars, puisqu'ils y sont déjà, ils explorent. Et dans ces missions futures, il y aura des robots aussi pour, par exemple, extraire du minerai, pour aider à la construction, voire pour être des compagnons.
Alors, sur Mars, je dirais que les robots, d'une manière générale, ils nous accompagnent. Dans l'aéronautique, par exemple, le pilote automatique, c'est un robot. Donc, on cherche souvent à opposer l'homme et le robot, alors qu'en fait, ils sont tout à fait complémentaires. Sur Mars, le problème est différent, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le lanceur qui va nous permettre d'emmener tout ce matériel sur Mars pour faire la croisière, pour y aller pendant 6 mois et revenir pendant 6 mois. On ne peut pas emmener tout dans un seul véhicule. Et donc, il va falloir, bien sûr, continuer avec des robots de visiter les sites sur lesquels éventuellement on veut s'installer et atterrir. Et il y a un concept de projet qui avait été développé par un Américain qui s'appelait Zubrin et qui, aujourd'hui, est le seul concept qui soit viable pour aller sur Mars compte tenu de ses problèmes de masse au décollage. C'est d'envoyer des robots pour préparer, faire des stocks de nourriture, d'oxygène, d'eau sur place pour accueillir ces astronautes. Et ça va même tellement loin qu'on prévoit d'envoyer, faire des usines sur place qui vont fabriquer le carburant qui permettra au véhicule, à la fusée, de revenir depuis Mars sur Terre. Parce qu'autrement, on ne sait pas faire un véhicule, une fusée qui ait les capacités de masse qui lui permettraient de faire la mission en entier.
Mais un robot compagnon pour justement essayer de pallier à la solitude.
On a vu seul sur Mars, ça marche.
Bon, c'est vrai. Ce que font les agences spatiales, c'est elles proposent aux astronautes de cultiver des plantes pour les ramener à la Terre.
C'est vrai, c'est ce qu'on verra d'ailleurs dans ce documentaire. Ça s'appelle donc Cosmos, les cobayes du cosmos, confidence d'astronautes. C'est en avant-première donc tout à l'heure à 18h à l'auditorium du Muséum de Toulouse. Projection qui sera suivie d'un débat avec vous, Jean-Christophe Ribaud. Et puis à voir évidemment la semaine prochaine sur France 5 dans la case Science Grand Format. Ce sera jeudi en l'occurrence. Et pour tous ceux qui souhaitent assister à la projection de cet après-midi, il faut s'inscrire. Évidemment, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire en allant sur le site Futurapolis. Merci Jean-Pierre Ignoret. On va vous laisser repartir avec votre navette spatiale en direction de Paris. Et puis on va continuer la discussion et nous allons plonger dans les océans dans un instant pour aller pêcher quelques molécules et parler santé. Tellement
réflexe d'automate et mauvaise foi. Cache-cache, même joue contre joue, ça va de soi. À la masse, fatigué surtout de ces jeux-là.
Cache-cache, extrait de son dernier album, La Voix de Françoise Hardy.
La Tête au Carré, en direct de Toulouse, sur France Inter.
Et dans les studios de France Bleu Occitanie, avec un petit son de mer, une ambiance, pour nous faire plonger vers notre prochain sujet avec vous, Sylvia Colliec-Jouot. Vous êtes biochimiste, spécialiste des polysaccharides au laboratoire des écosystèmes microbiens et molécules marines pour les biotechnologies, c'est à l'IFREMER. Vous êtes ici à Toulouse dans le cadre de Futurapolis, puisque demain, vous serez présente à l'occasion d'une discussion ayant pour thème la mer, un médecin qui vous veut du bien. Ce sera demain donc à 10h15 au muséum, là aussi, de Toulouse. Alors là, on a une ambiance plutôt tropicale parce qu'on entend beaucoup de sons, hein, précisément. C'est pour montrer aussi la diversité de l'écosystème marin selon l'endroit, évidemment, où on se trouve.
Oui, oui, il est très divers, ce monde marin, que ce soit sur nos côtes, selon si on est dans le nord, dans le sud, les océans, et la variété continue encore quand on plonge, et l'IFREMER justement explore depuis la fin des années 80 les grands fonds marins, les abysses, et là on a découvert des îlots de vie avec une diversité énorme, et notamment l'IFREMER a collecté des échantillons, des animaux, des sédiments, mais également des micro-organismes, et a constitué une collection un peu unique au monde de bactéries provenant de ce monde qui était quand même assez inconnu jusqu'à la fin des années 80.
Oui, c'est ça. Donc c'est un monde nouveau, hein, qui se révèle, et on arrive à le classifier donc déjà aujourd'hui avec toutes ces nouvelles.
Alors oui, on a trouvé de nouvelles espèces, donc notamment dans notre laboratoire, on a découvert des nouvelles bactéries. Donc ce sont des genres connus, mais des nouvelles espèces. Donc mes collègues ont donné des noms assez atypiques, Alteromonas infernus ou Vibrio diabolicus.
On comprend à peu près de quoi il s'agit, oui, ou à quoi ça fait référence.
Et donc, comme on travaille sur les biotechnologies, on a voulu regarder si ces bactéries pouvaient nous produire des molécules d'intérêt pour les biotechnologies, notamment les biotechnologies de la santé.
Oui. Jean-Pierre Hineret nous disait tout à l'heure qu'il avait passé un peu plus de 200 jours dans l'espace. Vous avez passé plus de temps quand même en mer, j'imagine, pour
votre
travail.
Ah non, alors moi, pas du tout, ce sont mes collègues.
Ah, vous les laissez partir?
Oui.
Et vous,
vous
restez dans votre labo, c'est ça?
Oui, oui.
Donc ils vous rapportent
voilà,
les échantillons au laboratoire?
Voilà, les bactéries au laboratoire, on les multiplie, on les cultive, et on réalise justement la production de ce polysaccharide, qui, comme je disais tout à l'heure, ressemblent aux polysaccharides qui sont dans nos tissus.
Ouais.
Et ces polysaccharides de nos tissus jouent un rôle clé pour la réparation de nos tissus et voire leur reconstruction.
Alors, c'est quoi un polysaccharide exactement, alors, pour qu'on comprenne
alors,
bien?
Alors, c'est un polymère, et justement, il y a aussi une très grande diversité structurale. Il y a la biodiversité, mais aussi la diversité structurale des polysaccharides, parce que ce sont des polymères. Et ce sont les molécules les plus complexes et les plus variées, en fait.
Ouais, mais par rapport à quoi alors? Par rapport au reste du monde vivant?
Alors, par rapport aux autres molécules.
Ouais.
Parce qu'une protéine, il n'y a que 22 acides aminés. L'ADN, c'est assez simple. Alors que pour les polysaccharides, il y a beaucoup d'oses et en plus, beaucoup de liaisons différentes. Donc, on peut construire des structures très variées. Ils peuvent être, comme ceux qui nous intéressent, chargés négativement, sulfatés, très branché, donc il y a une
très branchée, ça veut dire
oui,
quoi
ben, ramifiée.
Une molécule très branchée.
Alors oui, ouais. Alors elle a des branchements, mais ouais. Donc ce sont des ramifications.
Ouais. Donc il y a des enjeux très forts évidemment autour du monde marin pour oui. Ces molécules et pour la médecine de demain peut-être. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui on a déjà des médicaments qui sont concrètement issus aussi du milieu océanique ?
Alors il y en a quelques-uns, il y a quelques antiviraux et anticancéreux, je crois qu'il y en a à peu près 5. Mais ce sont des toutes petites molécules que maintenant on synthétise. On n'extrait pas parce que ça vient d'éponges de mer ou de coraux, donc on les resynthétise.
Ouais.
Alors que nous, dans notre cas, on utilise les progrès des biotechnologies et on peut cultiver les bactéries et produire vraiment à grande échelle ce polysaccharide pour après l'incorporer avec des cellules pour reconstruire des tissus.
Ouais. Alors justement, parce qu'il y a le petit texte de la présentation oui. De votre conférence demain qui explique que l'AZT, par exemple, le premier traitement contre le sida, a été isolé dans du sperme de hareng, c'est ça ? Donc oui. Ça fait partie des molécules précisément oui. Qui ont fait l'objet de ces recherches.
C'est vrai que le monde marin offre des molécules assez étranges, ouais. Différentes de celles qu'on trouve sur Terre. Et même, je pense que tout chimiste ne pourrait pas imaginer de telles molécules.
Ouais.
Et ce serait pas possible pour certaines de les synthétiser. Bon, il y en a qui sont synthétisées, mais pas toutes.
Alors justement, au niveau de la régénération cellulaire, du tissu, de la peau, des grands brûlés, là aussi, il y a des pistes extrêmement intéressantes autour des polysaccharides. Hein. C'est vraiment sur ces pistes-là que vous menez vos travaux. Hein.
Oui, parce que ces molécules, en fait, elles sont à la surface de toute cellule. Même à la surface des bactéries, à la surface des cellules de plantes, on les retrouve dans les algues, ils sont aussi présents dans ce qu'on appelle les matrices extracellulaires, donc ce qui entoure les cellules, et ils interviennent vraiment dans la communication entre cellules, et vont dire, en fait c'est un peu des chefs d'orchestre, dire à la cellule de produire telle molécule pour restructurer, réparer le tissu.
Ouais. Mais alors, ça fonctionne déjà ou pas sur l'homme ? Parce qu'on est dans un monde où, évidemment, il y a beaucoup de promesses, beaucoup d'espoirs, beaucoup d'annonces aussi, avec des travaux, avec ce décalage permanent entre, évidemment, la recherche et l'application ensuite. Hein. On travaille sur l'animal principalement, là, aujourd'hui, sur ces thématiques ?
Ce qu'on sait faire maintenant, c'est reconstruire des tissus. On sait faire des peaux équivalentes. On peut faire du cartilage. Et en fait, on les fait au laboratoire. Pour après les greffer en fait sur le patient, donc le grand brûlé, on peut mettre des peaux reconstruites ou injecter du cartilage.
Ouais. Et ça fonctionne déjà sur l'humain.
Oui, il y a des essais.
Il y a des essais.
Oui. Oui.
C'est-à-dire qu'on n'en est pas encore à l'industrialisation de ces procédés quand même.
Non,
hein.
Non. Je crois que c'est encore des études cliniques.
Ouais. Donc demain, on pourra discuter avec vous et d'autres invités autour de cette thématique, évidemment sur la mer, ce médecin qui vous veut du bien, qui nous veut du bien. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus, eh bien ce sera à 10h15 demain au Muséum National de Toulouse. Raja Chatila, on va parler d'humains et de robots aussi avec vous, parce que décidément, ils sont en filigrane de nos discussions, ces robots, même si on a quand même le sentiment que l'humain revient toujours au premier plan dans ces discussions que nous avons aujourd'hui. Jean-Pierre Ignoret en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est toute la question d'ailleurs qui se pose entre le robot et l'humain, et ça sera là aussi l'objet d'un débat sur les questions éthiques qui se posent.
Oui, l'humain est évidemment, l'être humain est évidemment au centre. La chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que ces machines, ces technologies sont faites pour aider les êtres humains, pour servir à faire des tâches que les êtres humains ne peuvent pas faire ou qu'ils n'ont pas la possibilité de faire parce qu'elles sont dangereuses ou parce qu'elles sont répétitives ou parce qu'elles sont ennuyeuses ou parce qu'elles sont sales, c'est-à-dire dans des environnements où les êtres humains ne devraient pas aller, par exemple sous les océans, par exemple sur la planète Mars, mais aussi dans des environnements pollués, par exemple. C'est pour ça que, quand on parle des questions éthiques, c'est pour replacer effectivement l'humain au centre, parce qu'il y a un certain nombre de tendances ou de discours qui semblent semer un peu de confusion, un peu disons, flouter la frontière entre l'humain et la machine.
Et vous, justement, c'est important de bien rappeler les choses et de remettre précisément le robot dans sa condition de machine et l'humain à sa place aussi d'espèce homo sapiens. Hein.
Absolument, parce que la question qui se pose à ce moment-là, c'est une question sur l'identité humaine, sur la dignité humaine. Si on confond l'être humain avec la machine, on est en train, finalement, de dire que l'être humain et la machine, c'est la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose, et bien évidemment. De ce fait, cette confusion va se retourner contre l'être humain, en donnant à la machine une place qu'elle n'a pas.
Et pourtant, on accorde même des droits aujourd'hui de citoyenneté, en particulier à des robots. C'est le cas de Sophia, ce robot qui a été fait citoyen d'Arabie Saoudite. C'était en octobre dernier. On écoute cet extrait.
Elle a un joli sourire, Sophia. Et elle parle bien et intelligemment. Elle a le sens de la répartie.
Vous regardez trop de films hollywoodiens. Soyez correct avec moi et je serai correct avec vous.
Sophia est la vedette d'un salon high-tech en Arabie Saoudite, un robot doté d'une intelligence artificielle sous la peau de silicone. Il n'y a que de l'électronique. Sophia est la dernière coqueluche du royaume, au point de se voir offrir la citoyenneté saoudienne par le roi Salman.
Je voudrais remercier le roi. C'est historique d'être le premier robot dans le monde à être reconnu comme citoyen.
L'histoire ne dit pas si Sophia a utilisé son tout nouveau passeport saoudien pour retourner là où elle a été conçue et où elle est née, à Hong Kong.
Alors, Raja Chatila, vous qui êtes, je le rappelle, roboticien, directeur de l'ISIR, c'est l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, et professeur aussi à Sorbonne Université. On voit quand même comment les robots aujourd'hui ont une place qui ne cesse de grandir au milieu des homo sapiens précisément. Cette citoyenneté donc accordée à un robot, qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'un point de vue éthique, social, philosophique ?
Bah, d'abord, je pense qu'il y a une double tromperie dans cette affaire. La première tromperie, c'est de faire croire que l'intelligence artificielle ou la robotique sont dans un état d'avancement qui permet de faire des machines, effectivement, qui tiennent un discours articulé, comme Sophia l'a fait, sachant que, évidemment, elle ne comprend rien à ce qu'elle raconte. Et donc, c'est un discours qui a été élaboré par des êtres humains, par ses constructeurs, dans un but de faire passer un message. Aujourd'hui, elle peut dire qu'elle est là pour aider l'humanité à résoudre ses problèmes. Hier, elle pouvait dire qu'elle était là pour détruire l'humanité. Donc, le robot, en fait, n'est pas à l'origine de ce qu'il dit. Le problème de cela, c'est que la conséquence de cette tromperie, c'est que certains États, comme vous venez de le dire, croyant montrer qu'ils sont vraiment...
très à la pointe,
dans les hautes technologies, eh bien, cherche un geste publicitaire. Et voilà, on lui accorde la citoyenneté, ce qui n'a aucune conséquence, naturellement, sur le robot ni sur l'Arabie Saoudite. Mais maintenant, on parle systématiquement de l'Arabie Saoudite quand on parle
Et le coup de com' a réussi, finalement.
Exactement.
Et ce passeport, il aura au moins servi à ça. Est-ce que ça ne dit pas quand même quelque chose sur la place qu'on laisse aujourd'hui aux robots et la façon dont les machines sont capables de s'installer aussi dans nos vies, et finalement cette frontière qui devient de plus en plus poreuse entre l'humain et la machine ?
Eh bien, effectivement, mais c'est pour cela justement qu'il faut soulever ces questions éthiques, c'est pour ça qu'il faut en discuter, que tout le monde doit s'en emparer, parce que il faut remettre l'humain au centre, comme je le disais, et que cette tendance a vraiment donné une place prépondérante, de plus en plus importante, disons, en tout cas aux machines, et en particulier à des robots qui ont l'air humain, l'air intelligent, et ce n'est pas une vérité. Ça, de nouveau, ça met en cause finalement notre humanité, et il faut en être conscient. Et c'est pour cela que le discours éthique est un discours qui est tout à fait à propos sur ces questions-là.
Laurent Chevalier.
Oui, mais je pense que je suis très content d'entendre Raja Chatila dire ça, parce que nous, sur le plan médical, on nous annonce aussi des robots, notamment pour la chirurgie. Et effectivement, c'est une publicité pour les hôpitaux, pour les cliniques, de dire on a un robot, en faisant croire que le robot va remplacer le chirurgien.
Il y a des opérations qui réussissent quand même.
Quelques-unes qui
très réussissent. Très impressionnantes, même certaines à longue distance.
Il faut faire très attention et il faut aller de façon très précautionneuse. Par exemple, un chirurgien du viscéral, bien, il palpe. Le robot ne palpe pas. D'autre part, quand vous avez une mauvaise fracture en chirurgie orthopédique avec un os, le robot ne saura pas forcément quoi faire. Mais par contre, ça peut être des aides extrêmement intéressantes en pré-opératoire ou pour certains types d'interventions, mais très limitées. Donc ça ne doit pas être un argument de publicité, mais ça doit être effectivement une aide pour le chirurgien.
Raja Chatila,
vous êtes d'accord ? Tout à fait. Les robots, même ceux qui sont utilisés de manière assez importante, essentiellement d'ailleurs pour l'ablation de la prostate, sont téléopérés à faible distance. Le chirurgien est dans la salle d'opération juste à côté. Ils ne sont pas du tout autonomes. Ils ne font pas les choses tout seuls. Et c'est vrai ce que vous dites, le robot est une aide au chirurgien. On conçoit l'instrument chirurgical robotisé, le robot qui aide le chirurgien à avoir un geste plus sûr ou à un moment donné bloquer un instrument, par exemple, parce que le chirurgien a besoin de sa main pour faire autre chose. C'est vraiment une aide au chirurgien. C'est le chirurgien qui est aux manettes, si je puis dire.
Je me souviens d'une opération, ça devait être en 2009 ou 2010, entre Strasbourg et New York. Hein. C'était un chirurgien strasbourgeois, justement, qui avait fait cette opération, qui avait été très médiatisée. Je ne sais pas si c'était été réitéré d'ailleurs depuis, mais en tout cas, voilà, on est capable de faire des choses assez étonnantes.
Il y a des expériences. Ça peut avoir un intérêt, parce que dans des zones démédicalisées, on peut bénéficier de cela. Mais de toute façon, c'est le chirurgien qui contrôle.
Voilà, donc l'humain est toujours là, évidemment, derrière la machine. Vous avez co-signé l'année dernière, Raja Chatila, dans Le Monde, une tribune qui demandait la création d'un comité national d'éthique du numérique. Vous en êtes où par rapport à cette demande et ce souhait de votre part?
Alors la demande est toujours là. Depuis, il y a eu le plan issu du rapport de Cédric Villani, qui est en train de se mettre en place.
Sur l'intelligence artificielle.
Sur l'intelligence artificielle, exactement, qui a été annoncé le 29 mars. Mm-hmm. Je pense qu'au niveau des parlementaires, comme au niveau du gouvernement, il y a une réflexion qui est en train d'être menée sur cette question, mais je n'en connais pas l'issue.
Bon, en tout cas, vous pourrez en discuter avec le public toulousain, puisque vous serez dans quelques heures à peine, 16h30, donc tout à l'heure cet après-midi, à la faculté de médecine sur le thème de l'intelligence artificielle. Le point de singularité, c'est quoi exactement le point de singularité?
Alors, ce point de singularité, c'est un mythe qui dit que, étant donné que la puissance des ordinateurs double pratiquement chaque année, il arrivera un moment qui est prédit autour de 2045, où cette puissance sera comparable à celle du cerveau humain.
Et voire dépassera.
Voire dépassera le lendemain.
Ah, le lendemain, tout de suite.
Voilà. Ouais. Et donc, on aura des machines intelligentes qui seront plus intelligentes que les êtres humains. Donc, c'est une singularité.
Bon.
C'est un point particulier. Mm-hmm. Qu'adviendra-t-il après? Et là, vous avez des visions apocalyptiques ou des visions
au contraire,
paradisiaques.
Hein, fanatiques.
Mais c'est un débat qui est un peu faussé par un certain discours qui rejoint un peu le transhumanisme, d'ailleurs.
Ouais. Jean-Christophe Ribaud, ça ferait un beau sujet de documentaire, ça, justement. Hein.
Oui, en plus, c'est très visuel, quoi. Ouais. Je pense que ce qui est intéressant dans ces capacités d'intelligence, c'est on parle en termes de puissance, mais on oublie souvent quelque chose qui est très visuel, c'est la matière. C'est-à-dire que la grande différence entre la machine et l'être humain, c'est avant tout la matière. On est fait de matières différentes et qui, donc, induisent des raisonnements différents. C'est-à-dire que la matière d'un cerveau, le neurone, la manière dont fonctionne avec toute sa porosité le corps humain, ça n'a rien à voir avec la manière dont fonctionnent les électrons dans des circuits électroniques. Et je pense que là, il y a une spécificité qui est très matérielle. Il n'y a pas besoin de... Je veux dire, on est encore dans une différence essentielle qui est au niveau de la matière, qui induit des raisonnements différents.
Ben, ça fera peut-être partie des discussions que vous aurez donc tout à l'heure à 16h30, Raja Chatila, à la Faculté de médecine de Toulouse, sur ce thème de l'IA et le point de singularité.
La tête au carré en direct de Toulouse, Mathieu Vidard.
Voilà, notre médecin nutritionniste Laurent Chevalier va clôturer justement cette discussion. Vous êtes praticien attaché au CHU de Montpellier et co-auteur avec Claude Aubert de cet ouvrage qui paraît « Alors on mange quoi ?», le guide du bon sans toxique, c'est aux éditions Fayard. Et de votre côté, vous serez demain, Laurent Chevalier, donc à Toulouse à 14h, toujours dans le cadre de Futurapolis, autour de cette discussion sur insectes, shakers protéinés, steaks synthétiques, à quoi ressemblera vraiment la nourriture du futur. Ça donne pas envie du tout, hein, déjà, pour commencer le menu. Hein.
Ben, on va
c'est ça,
de
des
ça,
insectes en entrée, un steak artificiel ensuite et en dessert.
Oui, tout ça, c'est
une
pas
pastèque
forcément...
OGM.
Oui, voilà, ou pseudo-OGM.
Pseudo-OGM, oui.
Donc, effectivement, on est un petit peu inquiet par rapport à ça. Vous savez, l'alimentation a tendance à s'artificialiser de plus en plus et c'est un vrai problème. Alors, on le voit déjà aujourd'hui avec tous les additifs qui sont ajoutés, tous les contaminants qu'on peut avoir et puis les migrations qu'on a des emballages vers les aliments. Mmh. Et tout ça, ça fait que les gens digèrent mal. On considère aujourd'hui qu'il y a un Français sur deux qui a des troubles digestifs. Dans l'alimentation du futur, ce qui est sûr, c'est qu'on mangera moins de viande.
Oui.
Donc, et plus de végétaux. Mais après, il ne faut pas forcément le substituer par un substitut de la viande où on nous présente ça comme quelque chose d'extraordinaire, d'écologique, etc. Alors que ça ne le sera pas forcément. C'est cette viande in vitro. On oublie la physiologie humaine, on oublie la vie d'une certaine manière, et c'est tout à fait problématique.
Mais il y a beaucoup de start-up américaines, de milliardaires qui investissent là-dedans, dans le steak. Il y a déjà d'ailleurs des essais
absolument
assez concluants quand même.
Ça peut arriver très très vite. Il faut voir que ces technologies sont extrêmement énergivore, dépense beaucoup d'énergie, ouais. Et qu'ensuite, il va y avoir une dépendance à ces grands groupes qui vont se créer, ces multinationales.
Ce qui est paradoxal d'ailleurs, parce que c'est souvent aussi pour répondre à des enjeux environnementaux, comme par exemple d'essayer de faire attention aux émissions de méthane,
justement, en mangeant moins de viande. Manipulation. C'est une véritable manipulation pour créer ensuite des dépendances, notamment des dépendances financières par rapport à ça. Et ce n'est pas ça que nous voulons, bien entendu.
Alors, qu'est-ce qu'on veut et à quoi ça va ressembler, finalement, ce monde
ça,
de demain?
Ça, c'est l'aspect tout à fait négatif de cette alimentation artificielle qui va être mal digérée et qui va être plus ou moins acceptée avec un grand renfort de publicité.
Vous pensez que l'organisme va rejeter ce type d'aliment artificiel?
C'est-à-dire qu'en fait, après ça, les gens ne sont pas bien, ils sont fatigués, ils ne savent pas pourquoi. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a quand même, par exemple, des boissons qui sont autorisées, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. En plus, on revendique parfois des formules secrètes pour certains sodas, ce qui est quand même tout à fait ahurissant. Donc on se trouve quand même dans une situation difficile. Mais heureusement, on a des alternatives qui se développent de plus en plus, grâce à nos chercheurs, de l'INRA, de l'INSERM, etc., pour avoir une alimentation qui soit beaucoup plus respectueuse. Vous avez fait récemment une émission sur les sols, donc voilà des progrès qui sont extrêmement intéressants, d'accompagner le vivant, d'arrêter les monocultures, de recréer des circuits agronomiques différents. Et là, on aura une alimentation bien meilleure. Après, il faut savoir aussi que le consommateur a le pouvoir. Le pouvoir quoi ? Eh bien, de ne pas prendre ces produits-là, malgré la publicité. Il faut rester sur une alimentation brute, bien entendu, qui soit moins transformée. Donc, et c'est banal de dire ça, mais aussi de proximité. Mais en fait, il faut absolument que ce mouvement-là puisse se développer. Et ce mouvement-là, aujourd'hui, il est accompagné par des ingénieurs agronomes, par des médecins et énormément de monde. Il faut savoir que et de rejeter, bien entendu, tous ces pesticides. Il faut savoir que, si vous voulez, les médecins étaient pour partie neutralisés, ils n'ont pas beaucoup bougé, alors qu'il y avait cette inflation de pesticides qui a été utilisée. Parce qu'on nous faisait croire que le progrès, c'était la technologie, et qu'on ne pouvait pas être contre la technologie. Donc, tout le temps, on a eu ce discours. Mais non, nous, on voyait nos patients qui ont des problèmes de santé. Aujourd'hui, on détecte tous les jours 1000 cas de nouveaux cas, il y a 1000 nouveaux cas de cancer qui sont détectés tous les jours en France. Donc, c'est une problématique général, environnemental, génétique, etc. Mais il faut tenir compte absolument de tout ça.
Alors, Laurent Chevalier, parce qu'il nous reste peu de temps, évidemment, concrètement, à quoi ça va ressembler, finalement, à la fois cette agriculture de demain et cette nourriture que nous aurons dans nos assiettes?
Il y a deux cas. Dans un cas, on veut supprimer l'agriculture, puisqu'on va créer, entre guillemets, des fermes urbaines qui vont contenir, qui vont utiliser beaucoup d'énergie, etc. Et puis, de l'autre cas, quel type d'agriculture on est prêt à avoir? Quel type d'agroécologie on est prêt à avoir. Il faut accompagner ce mouvement sur le plan scientifique et médical. Donc on est un peu à la croisée des chemins. Mais en même temps, encore une fois, le consommateur aura le pouvoir de dire oui ou de dire non, mais de ne pas se faire avoir par la publicité.
Mais quand on parle d'insectes, par exemple, c'est intéressant ça comme
perspective? Les insectes, ça peut être intéressant, par exemple, pour les gens qui sont dénutris. On peut les mettre effectivement dans des poudres, qui sont dénutris.
Les insectes, pas les gens. Oui.
Bien entendu. Donc ça peut être intéressant, de même que certains polysaccharides dont on a évoqué tout à l'heure pourront aider, notamment en cas d'escar ou ce genre de choses. Donc on a une technologie, bien entendu, qui peut aider.
La spiruline, on en entend parler beaucoup. C'est intéressant ou pas?
La spiruline, ça peut être quelque chose qui est intéressant, mais elle n'est pas indemne forcément de contaminants. Donc il faut faire un petit peu attention au type de culture, d'où ça vient, et même pour les produits bio.
Et la viande in vitro, vous n'y croyez pas?
La viande in vitro, comment vous allez la digérer? Vous allez avoir du mal à digérer, vous allez pouvoir la digérer, mais vous savez, énormément de molécules arrivent et ça crée des dysfonctionnements et des troubles à type de ballonnement, de fatigue, etc.
Bon, on pourra en discuter donc avec vous ici à Toulouse, toujours dans le cadre de Futurapolis. Là aussi, il faut s'inscrire en allant sur futurapolis.fr. C'est demain à 14h au muséum sur les insectes, les shakers protéinés, les steaks synthétiques et la nourriture du futur. Et ce livre, alors on mange quoi? C'est le guide du bon sans toxique et ça c'est du concret. C'est ce que vous publiez chez Fayard, Laurent Chevalier, avec Claude Aubert. Merci beaucoup à toutes et à tous. On se retrouve donc tout à l'heure, nous, à 18h, Jean-Christophe Ribaud, pour parler de Cosmonautes. On sera sur la scène du muséum pour présenter justement cette avant-première, avant qu'elle ne soit diffusée la semaine prochaine sur France 5. Merci beaucoup à Céline Finet, qui était aujourd'hui à la technique, justement, à France Bleu Occitanie, et Rémi Sistigia, qui était à Paris. Est-ce qu'on a de la pub, Fanny Bouillon? Eh ben, on a de la pub, on l'envoie, voilà.